Bien, bonsoir à tous et à toutes, tous ceux à qui j'ai pas dit bonsoir encore. On va reprendre notre texte biblique de Philippiens. Alors bon, j'espère que vous n'êtes pas fatigués de lire et relire ce texte. Je vois que Jonathan a puisé dans Philippiens et tu l'as lu deux fois dans une journée. Voilà. Je peux dire que je suis passé avant et j'ai pu lire Philippiens des années de ma vie, tous les jours. Philippiens, Colossiens, et même plusieurs fois par jour, parce que c'était pour moi, je peux pas dire une passion, parce qu'une passion a toujours quelque chose de mauvais derrière, hein. Mais c'était une soif de ces deux épîtres, hein. Et voilà, on ne se lasse pas de la parole de Dieu. Et alors, je vais vous jouer là-dessus et vous faire encore, on va relire ce texte dans le chapitre 3. Les versets 7 à 14. Alors, chapitre 3, versets 7 à 14. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui. Non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'étais saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Alors, dans ces derniers versets, on découvre quelque chose de supplémentaire à tout ce que nous avons vu, c'est que la vie chrétienne, c'est une course. Et que dans cette course, eh bien, il y a une récompense, il y a un prix. Et c'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est donc dans la vie de résurrection, c'est dans d'autres passages, il est question de la vie éternelle. Quand vous lisez dans les livres bibliques, et en particulier l'épître de l'évangile de Jean, et par exemple, vous connaissez bien Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, c'est cette vie de résurrection. Elle a une qualité de durée, mais elle a une qualité aussi de perfection. Nous la limitons souvent à la durée. On dit on aura la vie éternelle, on ne périra jamais, on va mourir certainement d'une mort physique si le Seigneur Jésus n'est pas revenu, mais de toute façon on va ressusciter. Et c'est vrai, cette manière de penser est vraie, mais elle n'est pas suffisante parce qu'il y a une qualité de vie, et c'est la qualité de vie éternelle. C'est la qualité d'une vie divine, si je puis m'exprimer ainsi. Jésus-Christ nous a donné sa vie. Et c'est par sa vie que nous vivons. C'est de sa vie. Donc c'est cela la vie éternelle. Et le Saint Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Il n'a pas parlé là de durée, mais il a parlé de la connaissance du Père. Et donc la vie éternelle, c'est vrai de dire que c'est une vie qui est éternelle dans sa durée, mais c'est aussi une qualité. C'est une vie qui a une puissance, une réalité, une présence, une vie extraordinaire qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Et même le Seigneur Jésus a promis que nous accomplirions des œuvres semblables aux siennes, et même que nous en ferions même des plus grandes que lui. C'est pourtant le Seigneur Jésus est venu pour ressusciter, il a ressuscité des morts. Mais quand on annonce l'Évangile et qu'il y a une nouvelle naissance, il y a une résurrection d'entre les morts, C'est comme le fils prodigue, hein, ou le fils perdu. Je préfère le dire le fils perdu. Prodigue, ce n'est qu'une question d'argent. Mais il était perdu. Il y a la drague perdue, il y a les brebis perdues, et le fils prodigue. Moi, je dis, bon, si les trois sont perdus, les deux sont perdus, le troisième, il est perdu aussi. Donc, même le père, hein, il dit, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Je vois pas pourquoi dans nos Bibles, on nous met comme titre le fils prodigue. Eh bien, évidemment, il est prodigue. Évidemment, il a dépensé l'argent de son héritage. Mais en fait, ce n'était pas son seul problème. Le problème, c'est qu'il était loin de son père. Et c'est cette vie nouvelle, cette vie de résurrection, cette vie ressuscitée. Et c'est dans cette vie ressuscitée, eh bien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend la première place. C'est lui qui est Seigneur de notre vie. C'est lui à qui nous soumettons nos vies. C'est lui de qui nous dépendons. C'est lui qui fait rimer notre vie tout entière est livrée au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui la raison de vivre de notre vie. Nos regards sont tournés vers Jésus-Christ. Vous pouvez tourner les regards vers des multitudes de choses. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens ont tourné les regards vers des choses de néant, des choses qui n'ont aucun sens. Elles ont un sens pour le monde. Mais elles n'ont pas de sens pour nous. Le sens de la vie chrétienne, c'est Christ. Christ, Paul le dit, hein, dans cette même épître, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Christ est notre joie. Christ est tout ce dont nous avons besoin. Nous sommes comblés au-delà de toute mesure en Christ. Mais donc, ce n'est pas faire preuve de mysticisme que de s'attacher à Christ et de regarder vers Christ. Et il est vrai que dès que nous voulons marcher pieusement en Jésus-Christ, eh bien, nous avons des persécutions. Et il est évident que nous aurons des critiques. Il est évident que des gens vont pas trouver que notre vie est... Bon, écoute, on ne peut pas se priver de tout quand même. On ne peut pas... Hein, et puis, il y a toutes ces bonnes raisons que l'on sort. Hein. Mais, donc, Paul nous dit qu'il a été saisi par Jésus-Christ. On pourrait dire empoigné par Jésus-Christ. Et c'est ce dont j'ai parlé la dernière fois. Mais maintenant, on va voir une deuxième chose, finalement, hein, dans ces quelques versets, c'est la fin. Il y a une deuxième chose. On a été saisi par Jésus-Christ, mais nous devons saisir Jésus-Christ. On doit saisir la vie éternelle. Il y a une responsabilité. Ce n'est pas que seulement je compte que Dieu va me saisir, il l'a fait en Jésus-Christ. C'est une certitude, aucune question à se poser. Mais ma responsabilité, moi, en tant que chrétien, c'est de saisir Jésus-Christ. Et il y a cette nécessité absolue. Si vous n'êtes pas saisi par Jésus-Christ, vous serez saisi par autre chose. C'est à un moment ou à un autre, vous rencontrerez quelque chose qui va vous saisir, qui va vous faire perdre votre temps, qui va vous éliminer de la course. Parce qu'en fait, ce qui est dit ici, c'est que c'est une course et il y a une récompense. Et il y a d'abord une vocation. C'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Évidemment, vous avez trouvé que c'est en Jésus-Christ. Il y a une vocation. Vocation, c'est, bon, ça vient du latin, hein, vocacere, c'est un appel. Nous avons été appelés. C'est-à-dire que Dieu nous dit, ceux qui m'ont accepté, eh bien, auront un privilège céleste. Il y a comment dire, un choix de Dieu pour nous. Quand nous sommes sauvés, que nous sommes réconciliés, c'est Dieu fait le choix que nous marchions avec Jésus-Christ, que cette vie soit une vie céleste, une vie de communion, une vie de persévérance, une vie où on accomplit les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est quelque chose de magnifique et qui dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. C'est une vocation, c'est un appel. Chaque chrétien est appelé à vivre une vie chrétienne authentique, une vie chrétienne vraiment vécue, pas une vie médiocre, pas une vie où on survit, où on essaye de faire en sorte qu'on ne soit pas trop en scandale à tout le monde, mais on va essayer. Non, il y a une vie triomphante, une vie victorieuse qui est en Jésus-Christ. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie qui est vécue à moitié. Ce n'est pas une vie qui est vécue médiocrement, mais c'est une vie qui est vécue dans une plénitude, dans la plénitude de Christ. C'est Christ qui est notre vie, c'est Christ qui nous qualifie, c'est Christ qui nous donne sa force, c'est Christ qui nous donne sa sainteté, c'est Christ qui nous donne sa justice, c'est tout ce que nous trouvons en Jésus-Christ, eh bien, devient notre vie. Parce que c'est lui en nous. Parce qu'il a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits sans le cep, eh bien nous-mêmes nous ne pouvons pas porter de fruits sans le Seigneur Jésus-Christ. Il dit même dans ce même chapitre 15 de l'évangile de Jean, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et même le verset que tu nous as cité tout à l'heure, je puis tout par celui qui nous fortifie. Il y a, pour moi, j'ai rajouté par Christ qui me fortifie, parce que d'autres versions anciennes l'ont. C'est je puis tout par Christ qui me fortifie. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me donne la force. C'est lui qui me donne la sagesse. C'est lui qui me donne tout ce dont j'ai besoin. C'est en Christ que se trouve la source inépuisable de tout ce dont j'ai besoin. C'est tous ceux qui veulent vivre une vie chrétienne par leurs propres efforts, par leur propre justice, par leur propre sagesse, manquent le but complètement. Parce qu'ils ont manqué l'essentiel, c'est-à-dire Jésus-Christ. Vous pouvez avoir une vie chrétienne merveilleuse. Si elle est vécue sans Jésus-Christ, vous avez raté votre vocation céleste. Parce que votre vocation céleste est en Jésus-Christ. C'est un appel céleste, c'est un appel divin, c'est un désir de Dieu que nous soyons semblables à Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement que Dieu dit « bon ben les meilleurs seront semblables à Jésus-Christ ». Il y en a quelques-uns qui finalement y arriveront. Si c'était par nos efforts, eh bien il est évident que les plus méritants recevraient la récompense. Ceux qui ont froncé les sourcils, serré les dents et les poings, ils ont dit, voilà, pas de problème, je vais réussir. Et ils ont réussi, gloire à eux, ils arrivent. Mais c'est la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et pour chaque chrétien, la seule condition, c'est d'être né de nouveau, d'être réconcilié avec Dieu. Tous ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, tous ceux qui ont fait la paix avec Dieu, eh bien, ont la responsabilité, parce que c'est un appel de Dieu, et il faut obéir à l'appel de Dieu, à vivre une vie chrétienne exemplaire, une vie chrétienne qui glorifie Dieu, une vie chrétienne qui est à la mesure même des choix de Dieu, des décisions de Dieu. Et c'est quelque chose de merveilleux. Alors Dieu nous laisse libres. C'est pour cela que certains ont une vie chrétienne triomphante, merveilleuse, parce qu'ils ont dit, je veux vivre cette vie chrétienne. Et donc c'est là que nous trouvons ces versets, ce qu'il dit, ce n'est pas que, c'est le verset 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. C'est on court, c'est-à-dire que je fais tous mes efforts. Et ici, il est question d'une course. C'est imaginer un coureur. Il est en train de courir, et puis il dit, tiens, je vais acheter une maison. Et puis, la voiture est vieille, il va falloir que je la change. Et puis, maintenant, il va falloir... Si jamais il laisse ses pensées s'évader de la course, il a perdu. Je me rappelle, vous avez entendu parler de Jesse Owen? Bon, Jesse Owen était l'homme le plus rapide du monde pendant plusieurs décennies. Et Jesse Owen était un coureur américain qui a couru dans le stade devant Hitler et les nazis, et il a remporté la médaille d'or de la course. Et il n'a pas remporté que cette médaille d'or, il a remporté au moins deux ou trois, si ce n'est pas quatre, médailles d'or. Hitler s'est levé, il est parti, il n'a même pas voulu voir la fin de la course. Mais son challenger, qui était allemand, eh bien, lui est venu serrer Jesse Owen dans ses bras. Mais Jesse Owen n'est pas devenu un coureur d'exception, du jour au lendemain. Il était un petit garçon qui courait des courses. Et il avait fait des erreurs. Et il avait un mentor, on pourrait dire, qui le suivait, qui l'encourageait, parce qu'il a vu que c'était un jeune homme qui courait bien et qui courait vite. Et un jour, Jess Owen n'a pas réussi à gagner la course. C'était quand il était tout jeune. Il a dit, viens, je vais te montrer les grands coureurs. Et il l'a amené dans un champ de course hippique. Et alors, ils ont vu une course de chevaux. Et il a dit, tu n'as rien remarqué? Alors, Jess Owen n'avait rien remarqué, évidemment. Alors, il a dit, mais ces chevaux, est-ce qu'ils pensent à leurs jambes quand ils courent? Est-ce qu'ils pensent à gagner des maisons? Est-ce qu'ils pensent à ceci, à cela? Ils ne pensent qu'à une chose, à la course, uniquement. Et en fait, c'est une grande leçon. Parce que si vous laissez vos pensées, votre cœur se captiver par des choses égoïstes, des recherches personnelles, individuelles, ou même des recherches pour votre cercle proche, c'est vous manquez l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est Christ. Il y a une vocation, il y a un appel. Et il dit, je ne pense pas, Paul disait, je ne pense pas l'avoir saisi. Il dit clairement qu'il est dans une course et que cette course, il ne l'a pas encore gagnée. Parce qu'il a encore des années devant lui. Et tant que la course n'est pas finie, on n'a pas gagné. C'est comme cela. Vous pouvez faire un faux pas au dernier mètre et vous ne gagnez pas la course. C'est celui qui était juste derrière vous qui gagne. Vous étiez le meilleur jusqu'au dernier mètre et vous avez trébuché au dernier mètre. Et voilà, le deuxième, qui est celui qui était juste derrière vous, parce que vous savez, les coureurs, quand vous les regardez courir, il faut vraiment le flash pour les déterminer qui est le premier, qui est le deuxième, même troisième. Hein, parce que ça se passe à des fractions de secondes. Hein, c'est même pas les... Alors il suffit, hop, vous avez un petit accrochage, une pierre, je ne sais pas quoi, et vous avez perdu. Donc Paul disait modestement, je ne pense pas l'avoir saisi. Parce que je suis encore capable de tomber et de faire quelque chose qui me fait rater la course. Mais il dit, mais... Je cours pour saisir ce prix. Je ne pense pas avoir atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. On a été saisi par Jésus-Christ et on est entré dans une course. Mais dans cette course, on fait tout pour la gagner. Et je peux vous dire, il y a des renoncements. Si vous voulez faire un marathon, ou si vous voulez faire une course quelconque, physique, hein, ne parlons pas de... Eh bien, vous allez devoir faire un régime. Eh bien, si vous avez 3 ou 4 kilos de trop, ben, vous allez devoir les perdre. Eh oui, même si parfois c'est beaucoup plus. Vous avez de bons projets, mais votre physique n'est pas à la hauteur. Et puis, il va falloir aussi suivre les conseils de quelqu'un qui va vous dire, voilà... pour gagner la course ou pour même participer à la course, parce que il y a pour participer, il faut déjà il y a des éliminatoires. Eh bien, il va falloir que vous fassiez, remplissiez telle et telle condition. Il fallait voir le médecin, il fallait voir ceci, il faut faire ci et ça. Et donc, il y a des contraintes. Et il ne s'agit que d'une course quelconque, une course physique, mais la course céleste. La course dans laquelle nous sommes entrés dans notre vie chrétienne, cette course, eh bien, il y a des renoncements. Peut-être que vous devez perdre un peu de poids. Hein, il y a des choses qui vous pèsent, qui vous encombrent. Et c'est accepter de tout perdre pour Christ. Parce que je peux vous dire, cela vaut la peine de gagner Christ, de gagner la vocation céleste. Il y a une course dans laquelle... on ne s'embarrasse pas des affaires de la vie. Et c'est Paul qui le disait à Timothée, hein. Celui qui veut plaire à celui qui l'a enrôlé, hein, c'est bien le soldat que celui qui est l'athlète, qui est dans la course, eh bien, il s'astreint à des contraintes. Et on le trouve tout à fait normal que les athlètes s'entraînent une bonne partie de la journée. Je me rappelle de c'était Franz Liszt. Franz Liszt était un joueur du piano d'une manière extraordinaire. Et un jour, on lui dit, Monsieur Liszt, vous travaillez le piano combien d'heures par jour? Il a dit pas moins de 8. Pas moins de 8 heures par jour. Le grand pianiste Liszt devait faire des gammes et jouer du piano 8 heures par jour pour être ce qu'il était. Bon, il était doué. C'était un génie, d'accord. Mais ce n'est pas un génie sans rien faire. C'est pas quelqu'un qui. Le génie, il faut le pousser, il faut l'aider. Il a dit, si je m'arrêtais une journée, le lendemain, je saurais que je me suis arrêté une journée. Si je m'arrêtais 2 jours, mes amis les plus proches se diraient, Franz Liszt n'est plus à la hauteur, et là, il a un petit problème. Si jamais je m'arrêtais une semaine, le monde entier le saurait. C'est quelque chose, vous savez. Il y a des contraintes, il y a des astreintes, il faut faire des choses. Et dans la vie chrétienne, c'est exactement la même chose. Paul disait, je traite durement mon corps, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je sois moi-même rejeté. On ne perd pas son salut, mais on peut perdre sa récompense. C'est une grave question. Comment voulez-vous rentrer dans la présence de Dieu pour l'éternité? Un jour, on va se trouver dans la présence de Dieu. Et c'est là que nous aurons des récompenses. Quelle récompense serez-vous? Est-ce que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour obtenir une récompense? Parce que Dieu veut nous donner une récompense. Et ne méprisez pas les dons de Dieu. Ne méprisez pas la récompense que Dieu veut vous donner. Parce qu'il veut vous donner une récompense. Si vous dites, au moins les récompenses, on ne m'achète pas les récompenses, j'en ai rien à faire des récompenses. Oui, mais vous méprisez Dieu. Vous méprisez le Dieu vivant qui a dit, cours une course honnête, droite, persévérante, où tu donnes la totalité. Et dans cette course, à la fin de cette course, je te donnerai une récompense. C'est on ne méprise pas Dieu. On ne méprise pas les récompenses. Parce que c'est Dieu qui nous a appelés. C'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc il y a des contraintes. Il y a des contraintes. On ne fait pas tout ce qu'on veut. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des moments où on dit non, ça c'est pas pour moi. Peut-être pour toi, oui, mais pas pour moi. Vous êtes obligé de dire, écoute, ça m'embarrasse, je ne peux pas. Et c'est dur. Et même vous perdez des amis. Vous perdez des connaissances, vous perdez, selon le monde, vous perdez beaucoup. Mais il y a une vocation céleste. Et il y a des choses sur lesquelles on ne transige pas. Parce qu'on a décidé de marcher une vie chrétienne. Nous sommes dans une course. Je fais une course. Vous connaissez l'histoire de lièvre et de la tortue? Le lièvre était en train de s'amuser. Et à un moment, la tortue persévérait. Et les amis de la tortue, disons du lièvre, ont dit à la tortue, alors, tu ne t'amuses pas? Elle a dit, mais j'ai une course à faire. Avec le jeu de mots, bien sûr. Ah non, on ne s'amuse pas. Il y a des choses qui sont sérieuses, que l'on prend au sérieux. Vous savez, il y a un monde perdu. Les âmes que vous rencontrez dans la rue, elles sont perdues. Et l'enfer existe. L'enfer existe, sérieusement. Ce n'est pas à remettre en question. C'est la parole de Dieu est claire là-dessus. Un jour, il y a une récompense pour les perdus. Et c'est une récompense négative. C'est une perte. Et vous savez, on doit prier pour eux. On est dans une course. On peut vivre la vie et ah ben vous savez, moi je vais acheter des maisons. Je vais essayer de gagner le plus d'argent possible. Je vais essayer et puis vous concentrer tous vos efforts. Mais autour de nous, il y a un monde qui se perd. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre l'évangile. Il y a des missionnaires qui doivent être envoyés. Il y a des pasteurs qui doivent être appelés. Il y a des pasteurs qui doivent être soutenus. Et tout cela, c'est dans la course. Nous sommes dans une course. On n'est pas en train de s'amuser. Nous ne sommes pas dans un théâtre. Et puis, quand la scène est finie, ben voilà, on se serre la main, ben tout est bien. Ce n'était que fictif, tout ça. C'était un théâtre. C'était un film. Voilà. Il y a des moments dramatiques, mais non, ce n'est pas un film. Ce n'est pas un jeu vidéo. Quand vous avez fini, ben vous recommencez la partie. Pas du tout. Il y a des choses qui sont définitives. Celui qui est perdu, il est perdu pour l'éternité. Celui qui a perdu sa récompense, il a perdu la récompense pour l'éternité. C'est un jour, eh bien, il y aura des larmes dans nos yeux de tout ce que nous n'avons pas fait, des courses perdues, tous nos désirs insensés, toutes nos folies, tout ce que nous avons fait et que on se dit « c'est pas grave ». Mais rien n'est grave pour ce monde. Rien n'est grave. Mais aux yeux de Dieu, il y a des choses qui sont gravissimes parce que elles offensent Dieu. Elles offensent la sainteté même de Dieu. Mais elles nous endurcissent. Elles nous maintiennent en bas. Elles nous maintiennent dans des choses périssables. Des choses qui sont appelées à disparaître. Nous faisons une course. Et c'est une course dans laquelle on doit s'investir totalement. Et Paul pouvait dire, je ne l'ai pas encore saisi. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de le saisir. On a saisi, mais tant que ce n'est pas terminé, on ne peut pas dire que je l'ai saisi complètement. Vous savez, il y a ces gens qui se noient. Vous les attrapez, vous attrapez une main, vous avez touché, et finalement il est allé au fond et vous l'avez perdu. Et il est mort, noyé. Vous avez saisi, vous avez touché, mais vous ne l'avez pas gagné. Et c'est dramatique, hein. Et cette histoire de notre vie chrétienne, c'est un peu ça. Tant que nous n'avons pas atteint la fin, eh bien, nous n'avons pas encore fini de saisir. On a touché, on est là dans la main, mais il faut continuer, il faut persévérer, il faut lutter, il faut se battre, parce qu'il y a un monde perdu, parce qu'il y a des églises qui souffrent, parce qu'il y a des besoins de missionnaires, parce qu'il y a besoin de pasteurs, parce qu'il y a besoin qu'un travail soit fait. Nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu, pas dans une œuvre humaine, c'est l'œuvre de Dieu. Et nous sommes responsables pour la part que Dieu nous a confiée. Et cette part que Dieu nous a confiée, nous devons l'assumer totalement, complètement, de toute notre force, toute notre énergie, toutes nos ressources. Et Dieu demande que nous nous investissions totalement, en comptant sur lui, bien entendu. Mais nous devons faire notre part. Et Paul dit, je cours. Et même... Alors, vous êtes dans cette course, hein, vous l'avez couru, mais vous dites quand même, je me suis réveillé un peu tard, j'aurais pu me lever un peu plus tôt. Vous dites, j'ai perdu des années de ma vie. Et malheureusement, je me rappelle de cet homme, à 80 ans, il a découvert que la vie chrétienne, c'était un chrétien, et même c'était un professeur dans une école de théologie. Et il a, à 80 ans, un jour, dans une réunion, ce qu'on pourrait appeler une réunion de réveil, il a découvert la vie en Jésus-Christ. Et instantanément, il l'a saisi, il l'a vécu. Et le lendemain, il est venu, il a dit, ma vie a changé. Tous mes buts, toutes mes perspectives sont devenues différentes. Je suis un homme nouveau. Je connaissais Jésus-Christ comme mon sauveur, mais là, j'ai découvert ce que je n'avais pas. Quelques mois après, cet homme est parti avec le Seigneur. Il est décédé. Mais 80 ans, il est arrivé à 60 ans de vie chrétienne et il n'a pas réussi à trouver, ou personne ne lui a dit, malheureusement. Et lui-même a enseigné, et il a enseigné des théories, des choses exactes, mais sous forme de théories. Ce n'était pas vivant. Vous savez, il y a ce constat que l'on a raté quelque chose. Si vous avez ce sentiment et vous dites « mais ma vie n'a pas été assez utile, je n'ai pas vécu autant que j'aurais dû vivre, il y a quelque chose qui s'est mal passé dans ma vie, j'ai perdu des années de ma vie. » Et c'est vrai, et il y a le temps des larmes et le temps de la repentance et de l'humiliation devant Dieu où on reconnaît ses torts, on reconnaît que l'on n'a pas été à la hauteur et que l'on n'a pas été à la hauteur de la vocation céleste en Jésus-Christ, que nous n'avons pas vraiment vécu la course. Nous avons vécu autre chose, mais pas la course que Dieu nous présentait devant nous. Eh bien, une fois que vous êtes humilié, que vous avez demandé pardon à Dieu, et que vous avez accepté le pardon que Dieu vous offre, eh bien, saisissez la course. Prenez la course. Et c'est pour cela que Paul dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Ce qui était en arrière pour Paul, c'est que Paul était un persécuteur de l'Église. C'était une lourde de charge qui pesait sur lui. Et à plusieurs reprises, au moins une fois, il dit « J'étais persécuteur de l'Église ». Quant aux seuls, c'est irréprochable. J'étais persécuteur de l'Église. Il parle qu'il était un homme violent. Donc ça, c'était des choses qui pesaient lourdement dans sa vie et dans sa conscience. Mais il dit « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». J'ai une expression. C'est ne gâchez pas votre avenir avec votre passé. Vous avez un passé. Il est ce qu'il est. Vous ne pouvez pas le changer. N'avez pas été à la hauteur, malheureusement. Alors mettez-le en règle devant Dieu. Et alors, entamez la course et vous portez-vous en avant. Oubliant ce qui est en arrière, portez-vous en avant. Ne ratez pas la suite de votre course, parce qu'il y a un passé et parce qu'il y a des choses ratées. Et je peux vous dire, ne vous en souvenez plus, parce que c'est lavé par le sang de Christ et vous avez été racheté à un grand prix. Mais ce qu'il y a, c'est que vous avez les chers frères et sœurs qui vont vous le rappeler. Ça arrivera. Vous aurez l'ennemi qui voudra vous le rappeler aussi. Mais toutes ces choses, oubliant ce qui est en arrière, portez-vous vers ce qui est en avant. C'est le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. C'est quelque chose de si merveilleux, si extraordinaire. C'est vrai qu'il y a des trous dans notre vie chrétienne. C'est vrai qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites comme il le fallait. Mais toutes ces choses-là, mettez-les en règle. Pleurez s'il le faut. Humiliez-vous. Demandez pardon. Réparez autant qu'il est possible. Mais ne laissez pas votre passé vous handicaper dans votre avenir, dans votre présent et dans votre avenir. Regardez vers Christ, parce que c'est Christ qui est la solution. C'est Christ qui est notre rocher. Donc il dit, je fais une chose. Nous sommes capables de faire des multitudes de choses. Il y a des gens qui sont multitâches. Moi, je ne le suis pas. Donc je sais ce que c'est que je fais une chose, parce que quand je fais une chose, je ne peux pas faire deux. C'est comme ça. Mais il disait, je fais une chose, c'est-à-dire je cours une course. Je ne suis pas en train de m'amuser, je ne suis pas en train de vivre dans le monde, je ne suis pas en train de faire des choses que Dieu désapprouve. Je fais la course, je marche dans la volonté de Dieu, je marche à la lumière de la parole de Dieu. Et Paul dit, je n'ai pas encore atteint le prix, je n'ai pas fini ma course. Mais je me focalise totalement dans une seule direction. Vous savez, c'est comme quand vous prenez une loupe. Et bon, malheureusement, j'ai utilisé une loupe quand j'étais petit. Et ça me permettait de griller les fourmis. Donc, j'étais assez cruel avec ça. Mais bon, mais vous avez le moment où la lumière est tellement focalisée que c'est un point. Et ce point est d'une chaleur terrible. Hein? Et je pense qu'il y a dans notre vie chrétienne ce point de focalisation où on est dans une seule direction. On a une seule pensée, un seul but, Christ. Et il y a une vocation céleste qui est de Dieu en Jésus-Christ. Dieu m'appelle à être un chrétien qui donne sa vie totalement, qui ne perd pas son temps à des futilités. Parce que, vous savez, c'est le vivre comme le monde, mais ce n'est pas difficile. Il suffit simplement de se laisser aller. Vous laissez votre vieille nature prendre le dessus et vous allez faire exactement les mêmes choses que le monde. Vous allez vouloir les mêmes choses que le monde. Vous allez avoir les mêmes appétits que le monde. Mais C'est une décision. C'est un choix que nous avons un jour à faire dans notre vie. On dit « je veux marcher avec Christ ». Je ne veux plus perdre mon temps à droite et à gauche, en toutes sortes de choses. Je veux marcher avec Christ. Je veux vivre pour lui. Parce que c'est une course. Et dans une course, on se donne totalement. Parce que celui qui ne se donne pas totalement, il est sûr de la perdre. C'est quelque chose de merveilleux, vous savez, que la vie chrétienne. Mais il faut persévérer. Il faut faire des choix. Il faut dire non. Ça, c'est pas pour moi. Peut-être pour le monde, oui, mais pas pour moi. Ma course, elle est ailleurs. Mes buts sont différents de ceux du monde. Mon cœur est attaché ailleurs. Je regarde à Christ. C'est lui qui est le soutien de ma vie. C'est lui qui est ma joie. C'est lui qui est mon bonheur suprême. C'est lui qui est tout ce dont j'ai besoin. Je regarde vers lui et je suis encouragé. Je regarde vers lui et je trouve toute plénitude. Je regarde à lui et toute la parole de Dieu s'éclaire. Je regarde à lui et je peux vivre une vie chrétienne triomphante. C'est ce regard vers Christ, où on s'appuie sur Christ, où on marche avec Christ. Je peux vous dire une chose, le monde essaiera toujours de vous séduire. Et même votre propre cœur essaiera de vous séduire. Mais restez toujours dans une seule pensée, Christ. Christ est ma vie, Christ est ma joie, Christ est tout ce dont j'ai besoin. Le reste peut disparaître. Et un jour, ce monde va passer, et c'est Pierre qui nous le dit, hein, ce monde va passer avec fracas, les cieux et la terre disparaîtront. Seuls resteront les choses éternelles. Et ces choses après lesquelles nous avons couru, elles vont se perdre. Je me rappelle d'une dame, elle avait elle roulait dans une belle voiture rouge quand même, hein. C'était une belle voiture rouge. Et puis, un jour, elle a pris sa douche et comme elle avait envie de se passer le gant en crin, vous savez, ce gant qui est très dur, là, ça gracle, hein, elle a passé le gant. Vous savez, c'était une catastrophe. Son bronzage a été... il y a des parties de peau du bronzage qui sont parties. Alors, vraiment, là, elle était désespérée. Elle en a parlé, hein, tout le monde. Je l'ai entendu. Je m'en rappelle encore. Si je vous en parle encore. Et puis un jour, elle a eu un cancer et elle est décédée. Et il y a de longtemps qu'elle est décédée maintenant. Mais je me dis, mais c'est cette voiture rouge, c'est ceci, c'est cela. Oh, elle a épousé aussi un grand gars, un gaillard costaud. Hein. C'est vraiment, montrer ses biceps sur la plage, c'est vraiment quelque chose. Hein. Mais lui, un jour, il m'a dit, tu sais, je ne peux même pas soulever un parpaing. Il avait tellement mal au dos qu'il ne pouvait même plus soulever la moindre petite charge, de rien du tout. 10 kilos, il ne pouvait pas les soulever, tellement il avait mal au dos. Et tous ces gars... toutes ces choses, toutes ces futilités auxquelles ils se sont tournés. Mais on leur a parlé de l'évangile, on leur a dit Jésus-Christ est le seul sauveur. Ils n'ont jamais voulu accepter. Mais non, on a des gros biceps, on a un bon bronzage, on a une belle voiture rouge, ah, et les beaux habits, et les bols ceci, et les belles cela, et les maisons, ah oui, mais les maisons, oui, la belle maison, et une belle maison. Et la belle maison, elle a été vendue un jour quand ils ont divorcé. Ben oui, parce que ça arrive aussi. Hein. Mais tout cela, c'est le monde. Ce sont les futilités de ce monde. Nous, nous sommes attachés à des choses solides, des choses éternelles. Ça ne part pas comme un bronzage. Ça ne part pas comme une belle voiture rouge, je peux vous dire. Elle est partie à la ferraille d'une manière certaine. À moins qu'il y ait quelqu'un qui aime les collections, parce que c'était une voiture assez rare, hein. Donc, bon, voilà. Mais peut-être que dans une collection. Mais 90%, je pense qu'elle est dans la ferraille. Et même ferraille, elle a disparu, elle était fondue et tout ça. Toutes ces choses-là sont passées. Mais sur l'instant, elles ont une importance vitale. Vitale. Et quand on annonçait l'évangile à ces personnes, ils n'en voulaient pas. Parce qu'ils avaient du concret, du solide. Une belle voiture rouge, du bronzage, des muscles. Mais ils sont morts. Et toutes ces choses ont disparu. Mais eux croyaient que c'était du solide. Ça ne changerait jamais. Ils pensaient même peut-être qu'ils étaient éternels, qu'ils ne mourraient pas. Et puis un jour, un cancer. Voilà. Prématurément. C'est mort à 35 ans, 40 ans. Voilà. C'est comme ça, d'un coup, c'était fini. Et vous savez, c'est la phase de ce monde change. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. La vie que Dieu nous donne, c'est une vie éternelle. C'est une vie puissante. C'est une vie solide. C'est une vie qui a une qualité. C'est une vraie vie. Tandis que la vie que nous propose le monde, c'est une vie factice. C'est une vie trompeuse. C'est une vie qui est appelée à disparaître parce qu'elle est limitée dans le temps. Toutes ces choses qui vous attirent, qui attirent vos regards aujourd'hui, vont disparaître. Et je peux vous le dire, c'est une garantie absolue. Tandis que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et donc Paul disait, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Et le but, c'est Christ. Tout le reste n'a pas cours là où nous allons. Celui qui a gagné Christ, eh bien, il a gagné l'essentiel. Il a gagné tout ce dont il a besoin. Et un jour, nous allons rencontrer Christ. Nous allons le voir face à face. Comment serons-nous à ce moment-là? Quelles excuses vous pensez que vous allez pouvoir donner pour une vie médiocrement vécue? Une vie, un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur. Hein? Ou, quand on dit un pied dans le monde, un pied avec le Seigneur, je peux vous dire, c'est plutôt dans le monde qu'avec le Seigneur. Hein? Nous, on pense que c'est comme ça, mais ce n'est pas vrai. On va pouvoir dire ces choses-là. Parce qu'il y a une récompense. Et le Seigneur Jésus va dire, mais tu as perdu ta récompense. Oui, tu étais riche. Oui, tu as possédé ceci. Oui, tu as eu ça. Oui, tu as réussi selon ce monde. Mais tu as perdu selon l'Évangile. Tu as perdu selon Christ. Tu as perdu selon la vie éternelle. Tu n'as pas choisi les choses éternelles. Tu as choisi les choses périssables. Et ces choses, eh bien, elles ont disparu maintenant. On est passé aux choses éternelles. Et c'est une grave question, vous savez, que nous devons nous poser. Je recommande à chaque fois, mettez votre vie devant le Seigneur. Sondez votre vie. Demandez, Seigneur, sonde-moi. Vois si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Et je peux vous dire, c'est une prière que je fais souvent. Et je demande, Seigneur, conduis-moi. Ouvre mes yeux si je fais quelque chose qui n'est pas bon. Alors, arrête-moi dans ce chemin. Montre-moi d'une manière claire. C'est ce qui n'est pas de toi. Je ne veux pas le tolérer une seule seconde de plus dans ma vie. Ce que je veux vivre, c'est pour toi. Posez-vous ces questions. Mettez votre vie à la lumière. Ne vous accordez aucun répit. Vous savez, on est paresseux. On est faible avec soi-même. Mais ne vous accordez aucun répit. Dites-vous, s'il y a quelque chose qui doit changer, alors je prends la décision adulte, mûre, je la change. Je ne veux pas rester une seule seconde hors du plan de Dieu, hors de la volonté de Dieu, hors de la lumière de la parole de Dieu. Je veux marcher avec Christ, je veux vivre pour lui, parce que un jour, je serai dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est à ce moment-là que nous découvrirons ce que nous serons pour l'éternité. Quelle récompense nous allons avoir? Et même le Seigneur Jésus dit à certaines personnes, éloigne-toi de moi. Éloigne-toi de moi. Et ils seront loin de Dieu, loin de Christ dans le royaume. Et je crois qu'il y a des récompenses, et je crois qu'il y a des proximités de Christ, et il y a des éloignements de Christ. Et je peux vous dire, faites les bons choix maintenant, parce que plus tard, c'est trop tard. Satan essayera de vous convaincre du contraire, mais ne l'écoutez pas, c'est un menteur. Il a toujours trompé. Il a trompé nos premiers parents en leur disant qu'ils ne mourraient pas. Mais la première parole que Dieu a dite à Adam, une des premières, il a dit que, eh bien, il travaillerait à la sueur de son front jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière d'où il a été tiré. Et Dieu lui a dit. Satan lui a fait croire qu'il ne mourrait pas. Mais c'est un menteur. comme il vous fait croire toutes ces choses qui vous illusionnent aujourd'hui. C'est pour cela, regardez vers Christ et soyez honnête avec vous-même. Ne trompez personne. Regardez à Dieu. Et s'il faut mettre des choses en règle, mettez-les en règle. C'est très important.